Bonjour et bienvenue à tous. Vous écoutez l'émission Cinébrunch, votre magazine de cinéma qui s'assume. Mon nom est Jim Boulay, comme d'habitude, après 12 épisodes, cette fois, on pourrait presque dire tradition, je suis en compagnie de Louis Laramé et Mélina Lopez-Nadeau. Bonjour!
Allô!
Bonjour!
Et c'est fait, les amis, on a franchi la grande barrière de décembre. On ne pourra bientôt plus se plaindre du froid, parce qu'il va faire froid pour vrai. En décembre, j'aimerais prendre un moment de recueillement, chers amis, puisque décembre, c'est un mois saint. Oui, comme chaque année, on se retrouve en famille et entre amis pour cette grande célébration qu'on appelle Star Wars! Oui, chers auditeurs, dans exactement 6 jours, ce sera la sortie des derniers Jedi, où on verra, je l'espère, le personnage de Luke Skywalker pendant une 20aine de secondes, comme dans l'épisode 7. On parlera justement de l'acteur Mark Hamill dans l'émission « L'homme qui a fait plus de doublage que de films », à ce que j'ai entendu. Dans la deuxième demi-heure de cette émission, Louis, tu vas nous en parler. Et dans quelques minutes, on critiquera pour vous 3 films à l'affiche, Noël et compagnie, Junior majeur et 3 affiches près d'Ebbing, Missouri. C'est quoi ce nom-là? Qui a l'air particulièrement particulier, ce film? Hein? C'est-tu un pléonasme, ça, Louis?
Juste pour qu'on soit clair, si jamais on voulait annoncer au grand monde qu'on était une bande de geeks, de nerds, de dweebs, il n'y a pas meilleure manière que de transformer le mois de décembre en mois saint de Star Wars.
Je pense que le message est passé, Louis.
Je pense que le message est passé. C'est ça, c'est ce que j'ai fait cette semaine, Jim. J'ai réalisé qu'on était des Christine Nerds.
Bon.
Mais bref, fait que oui, j'ai réservé mes billets pour Star Wars en avant-première à Montréal. Mm. Pas parce que je suis opposé à Sherbrooke, mais parce que j'ai une copine là-bas qui voulait vraiment aller le voir avec moi. Il y a eu des menaces de violence physique.
Bon, c'est compréhensible. Mm-hmm. Et toi, Mélina, j'imagine que t'as pas acheté de billets d'avant-première pour Star Wars à Montréal.
Non, je n'ai pas fait ça. Par contre, j'ai commencé à écouter le film « L'étoile de Noël ». Et c'était vraiment particulier. C'est vraiment un film qui tente de recréer l'histoire de Jésus. Genre, au début, il y a une apparition divine devant Marie qui lui dit qu'elle va être enceinte du prophète, puis...
C'est un dessin animé.
C'est un dessin animé, ouais. Oui. Puis il y a un âne. Puis franchement, pour dire toute la vérité, j'ai pas été capable de continuer ce film. Après 20 minutes, je... Ah,
ça grit ton cœur.
C'était trop, disons, religieux ou c'était trop pas bon?
C'était pas trop... Je pense qu'on pourrait faire un bon film religieux avec Noël. Je pense que c'était juste... un mélange de essayer de faire quelque chose de super religieux mais de drôle mais en même temps qui faisait pas vraiment de sens. C'est un film qui peut sans doute plaire à certaines familles. Pour ma part, ça m'a déplu. En fait, j'ai pas été capable de l'écouter au complet.
Pour sortir après 20 minutes, faut que ce soit pas bon sur un Christi de temps là. Toi, Jim, qu'est-ce que t'as fait?
Ah, écoute, Louis, j'ai tellement de choses à te raconter. Si tu savais, premièrement, grosse rumeur du côté de la science-fiction, Louis, le prochain film de Star Trek pourrait être réalisé par nul autre que Quentin Tarantino.
Oui, j'ai vu ça aujourd'hui!
C'est assez exceptionnel comme rumeur, on s'entend. Alors, il semblerait qu'aussi bizarre que ça puisse paraître, Tarantino travaillerait actuellement avec J.J. Abrams pour... réaliser le prochain Star Trek.
Le studio a déjà acheté le premier jet. Fait qu'en ce moment, les rencontres sont J.J. Abrams, Tarantino et la boîte de production.
Hey, ça va être... Je pense qu'on entre dans une nouvelle ère de Star Trek.
Je sais pas.
Où Tarantino a décidé de se
caser. La bande sonore va être awesome.
Fort probablement. Fort probablement. Alors, voilà. Sinon, quelques potins de stars. On a parlé il y a quelques semaines de Kevin Spacey et des allégations d'inconduite sexuelle qui pesaient contre lui. Eh bien, c'est Robin Wright qui prendra la vedette d'House of Cards, la série Netflix, à partir de maintenant. C'est ce qu'a annoncé justement Netflix. Et vous savez que... Saviez-vous que Julia Roberts, ça marchait pas fort dans son couple en ce moment? C'est ce que j'ai appris en regardant le magazine Star. Oui, oui! J'ai pris une frite chez McDo à l'Ange Gardien et j'ai gagné un abonnement de 3 mois moi au site de magazine Texture. J'ai feuilleté des doigts, swappé, en tout cas, comment on dit ça, doigté. En tout cas, j'ai passé vite à travers le magazine Stars pour la première fois de ma vie. Et croyez-moi, j'avais des préjugés sur ce genre de torchon avant même d'avoir tenté l'expérience. Mais laissez-moi vous dire que ma courte lecture a dépassé mes attentes. C'est encore pire que je pensais. Il y a, ma foi, de la cochonnerie dans ce truc-là. Vous y croiriez pas.
Mais je me demande, c'est qui le mari de Julia Roberts? Parce que
David ou Dennis ou Daniel, quelque chose.
Ok, c'est pas, on le connaît pas autant.
Oh, sûrement les gens qui lisent Star le savent. Je te montrerai la revue si tu veux.
Parfait. J'ai hâte.
Sinon, elle est disponible près des caisses dans tous les bons supermarchés. Quelques mots pour vous dire que le film Bagage, mettant en scène de jeunes immigrants, sera diffusé à Télé-Québec ce lundi. Donc, si ça vous intéresse, c'est un film diffusé à la télé. C'est tout ce que j'avais à dire. On écoute vos critiques dans quelques instants. En attendant, baissez le siège avant de vous asseoir au cinéma parce que le plancher arrive vite et que c'est Cinébrunch! Louis, ça fait des mois que tu attendais pour voir ce film-là. Trois affiches près d'Ebbing, Missouri. Dis-moi que c'était weird.
C'était... ce film-là, c'était la vie, Jim. Ce film-là, c'était sombre, triste, drôle, heureux, optimiste, cynique.
Wow!
C'était toutes ces choses.
Comment ça peut être optimiste et sombre en même temps?
Mais je crois que Louis a beaucoup aimé ce film, si je me fie à ce que j'entends.
Ben, on va aller entendre la bande-annonce pour se donner une idée de où est-ce qu'on s'en va avec trois panneaux à l'extérieur de Ebbing, Missouri. Trois affiches tout près d'Ebbing, Missouri. You ain't trying to make me believe in reincarnation, are you? Because you're pretty, but you ain't her. She got killed. Still no rest. How come, I wonder? Because there ain't no God and the whole world's empty and it doesn't matter what we do to each other? I hope not. I don't know what the police are doing. I hadn't heard a word from them in seven goddamn months. I'll tell you this. I've heard an awful lot from them since I put them billboards up. Ta-da!
Ça a l'air extrêmement optimiste, comme tu dis. Et dis-moi, Louis, il n'y avait pas de bande-annonce en français pour ça?
Non.
Il n'y a pas de.
Ça n'a juste pas été traduit.
Mais le titre a été traduit.
Oui. Parce qu'il est disponible en anglais sous titre québécois.
Ah, OK.
Mais okay. Il est pas. Fait que j'aurais pu vous mettre la bande-annonce française. C'est ça. C'était ça, mais avec des sous-titres.
Les sous-titres. Ah oui, OK.
Ce qui à radio est hyper efficace. Là,
oui, non, c'est ça. On a déjà décrété que les sous-titres à radio, c'était pas fameux.
Fait que ce que c'est, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, c'est le film qui a remporté le People's Choice Award au TIFF, au Festival de films de Toronto, qui est le plus haut prix du TIFF. C'est le troisième long métrage de Martin McDonagh, qui est le type qui a aussi fait Bon baiser de Bruges, que j'ai adoré, ainsi que Sept psychopathes, qui était hallucinant. Ce que c'est, dans le fond, la voix qu'on entendait, c'est la voix de Frances McDormand, qui joue Mildred Hayes, mère de deux enfants, dont la jeune fille a été tué, violé dans un incident terrible où on n'a toujours pas trouvé le coupable. Puis pour accélérer le processus et trouver qui est derrière tout ça, elle loue trois panneaux publicitaires à l'extérieur de la ville où elle écrit un message à ce niveau-là. Pourquoi toujours pas d'arrestation? Chef Willoughby, qui est le chef de police, qui est joué par Woody Harrelson. Woody Harrelson, qu'on a connu dans No Country for Old Men, Hunger Games et Natural Born Killer. Ouais. Un acteur qui est vraiment la grosse classe et qui joue ici le chef de police un peu bon enfant, un peu bonhomme, qui essaye de défendre son service de police contre Mildred, qui est vraiment mécontente, amère et aigrie du fait d'avoir perdu sa fille, du fait qu'il n'y ait pas eu de changement et qu'elle a l'impression que le service de police sert juste à battre des noirs plutôt que de s'occuper de son cas. Parce que un des policiers, Dixon, joué par Sam Rockwell, est un abruti qui et ont une espèce de pensée raciste. Il y a une phrase vraiment malade dans le film où est-ce que le chef de police dit ah ouais, mais tu sais, si on est pour se débarrasser de tous les policiers qui ont des tendances racistes, il va rester 3 officiers puis ils vont avoir quelque chose contre les gays. Mais dans ce poste de police-là, ça file vraiment comme ça. Il y a des tensions à ce niveau-là. Bon, pourquoi est-ce que j'ai dit que ce film-là, c'est la vie? Parce que j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai été heureux, j'ai été triste. C'est que c'est vraiment tout le passage de Frances McDormand au travers une épopée. Au travers le début où est-ce qu'elle est désespérée, amère, pas contente de ce qui vient de se passer. J'ai failli sacrer. Parce que il y a toujours pas de nouvelles. Elle met les panneaux publicitaires et là... elle se ramasse à elle seule contre la ville. Je lisais des entrevues, je lisais une entrevue avec le directeur sur comment est-ce qu'elle est habillée tout le long du film, où à peu près elle porte une espèce de salopette, de jumper en jeans bleu,
avec
un bandeau dans les cheveux. Puis l'idée, c'était justement de la mettre en uniforme. L'idée de qu'elle est vraiment en guerre contre la ville. Ce qui donne des moments vraiment malades. Dans les gens qu'on connaît aussi, il y a Peter Dinklage, le nain qu'on a connu dans Game of Thrones, entre autres, qui joue le rôle d'un vendeur de voitures usagées alcooliques qui se ramasse au milieu de ces événements-là. Bref, on a tout dans ce film-là. Il y a une chose que j'ai pas aimée, il y a une petite longueur au niveau du deuxième acte où est-ce qu'il y a comme... on sait pas trop ce qui va se passer, c'est pas clair où ça va finir. Tu détesterais ce film-là, mon cher?
Ah, ben j'ai
pas
le droit.
Parce que la fin est ouverte. On ne sait pas comment ça finit et c'est pas clair sur pourquoi ça s'en va là.
Okay.
Mais sinon, pour le reste, c'est... si vous avez les autres films de Martin McDonagh, c'est ce sont vraiment plus des comédies noires ou des comédies humaines. Là, c'est plus un drame humain avec des éléments comédiques dedans. À la fin de Bon baiser de Bruges, j'étais halluciné devant l'ironie de la vie humaine. À la fin de ce film-là, j'ai pas ça. À la fin de ce film-là, okay, c'est la condition humaine qui est vraiment trash. Écoute, je vais arrêter de tourner autour du pot. Je donne officiellement à ce film la plus haute note de 2017.
Wow.
Avec un 9.8 sur 10.
Wow!
Ah, mais là, je pensais pas qu'on va faire des demi-points. 2.8.
Je veux pas donner un 10, mais honnêtement...
Non, mettons qu'en haut de 9.5, on peut donner des points 1.
Oui.
OK.
Parfait.
OK, ben c'est surprenant. C'est, je suis content de voir que ça t'a plu et je suis content de voir que j'ai pas besoin d'aller voir ce film parce que tu m'as déjà fait comprendre que je l'aimerais pas. Donc, merci Louis. Mélina, t'as pas niaisé avec la POC, t'es allé voir Junior Majeur.
Exactement, donc le film d'Éric Tessier, qui est sorti le 23 novembre dernier, qui est, si on veut, la suite de Pee-wee 3D, qui était sorti en 2012. Donc on retrouve les personnages 5 ans après. C'est encore une fois un drame sportif, donc on suit 3 jeunes, dont 2... les deux gars qui sont dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui veulent rentrer dans la Ligue nationale. Bon, vous voyez le tableau ici. Donc, on a, comme acteur, on a Antoine-Olivier Pilon, Rémi Goulet, Alice Morel-Michaud, qui jouent nos 3 jeunes. On a ensuite Claude Legault, Patrice Robitaille, Normand Dano, Edith Cochrane, Sophie Préjean et Madeleine Péloquin, qui jouent la plupart des personnages principaux qui sont autour d'eux. Donc, c'est des acteurs. C'est une belle brochette d'acteurs, je vous dirais. Mm-hmm. Donc, avant d'en dire plus, on va aller écouter la bande-annonce.
Les grands vainqueurs, tournoi Pee-wee 2012.
À ton retour, man!
Yeah. Comment on sent qu'on fait partie de la Ligue junior majeure du Québec?
Le monde, il tripe sur nous autres.
Fais-tu ici mon chandail, s'il te plaît? Je suis un gros, gros fan.
C'est vraiment cool de passer du temps ensemble.
Man, elle est tellement rendue hot, là!
Vous étiez encore sur le party hier soir?
Ouais, puis?
Une nouvelle liste est sortie pour le draft, puis tu seras plus numéro 1. Quand le t'a dépassé.
Bien sûr.
Un vrai scoop, c'est tout chaud.
Une nouvelle en rapport avec certains joueurs des Saguenayens.
C'est quoi cette histoire-là?
Qu'est-ce que t'as fait?
On avait dit qu'on parlait de sa personne!
C'est pas de ma faute!
Hey man, c'est pas sur le même rythme que mon film.
Non, on a vraiment un rythme qui correspond à une partie de hockey, donc ça se passe vite, il y a la musique forte.
Ça joue fort dans les coins.
Ça se plaque sur la bande.
Ça donne son 110%.
Exactement.
Donc, j'ai chill, moi, écouter ces entrevues de hockey.
C'est quand même intéressant comme film, je vous le dirai pas. Là, c'est déjà un succès là, au box-office québécois. Donc, ça s'écoute bien. Moi, je suis pas particulièrement une fan de drames sportifs, encore moins de hockey, parce que je n'écoute pas et je ne suis pas le hockey. Par contre, j'ai trouvé ça assez intéressant. Bon, il y avait des forces et des faiblesses dans ce film-là. Je vais commencer... Ben, en fait, je vais vous dire un peu, parce que dans la bande-annonce, on entend parler de quelque chose de dramatique. Bon, ils ont eu un petit pépin en auto, si vous voulez, à cause que le jeune Antoine-Olivier Pilon regardait son téléphone cellulaire. Il y a eu plusieurs campagnes ensuite de la SAAQ sur Internet avec les acteurs. Donc, voilà, ça a comme vu, il y a eu un côté un peu social à ça, là. Donc, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, je vais vous dire un peu les points forts pour commencer de ce film-là.
Oui.
Je commencerai avec le jeu des acteurs. Bien sûr, on remarque la performance d'Alice Morel-Michaud, Rémi Goulet, Antoine-Olivier Pilon. Mais je voudrais que l'acteur qui m'a le plus surpris dans ce film-là, c'est Claude Legault. Je crois que il était phénoménal, il était vraiment excellent. Il jouait le père qui a mis toutes ses ambitions de côté pour... qui vit, dans le fond, à travers son fils, qui veut que son fils réussisse, qu'il soit repêché par la Ligue nationale. C'est rendu son agent. Il a dans son sous-sol 5 écrans avec une genre de télécommande pour revoir
les matchs qu'il a fait.
Oui, tout ça. Il est vraiment impliqué, mais il est aussi alcoolique. Donc, c'est un personnage pas très joyeux, mais qui est joué vraiment à la perfection par Claude Legault. J'ai pas vu 19-2, mais... De ce que j'ai vu de Claude Legault, je vous dirais que c'est vraiment dans son meilleur rôle, selon moi, en carrière. Je trouve que des fois, c'est vrai qu'il est un peu sous-utilisé. On le voit plus dans des trucs drôles, si on pense à être dans une galaxie près de chez vous. Mais là, il vient vraiment, je trouve, voler la vedette. Sinon, les personnages aussi sont forts. Bon, les jeunes qui sont vraiment des vedettes dans leur village, dans leur ville, qui sont idolâtrés par tous les jeunes joueurs de hockey. Donc, ce côté-là est vraiment bien développé au niveau de l'ego, au niveau du fait qu'ils se croient tout permis. Ça, c'est super intéressant. Comme je vous disais tantôt, le rythme du montage est excellent. Ça va vite, y a de la musique, mais ça se passe bien. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment calqué, comme je disais tantôt, sur une partie de hockey. Ce qui m'amène à dire que les plans qu'on voit, les games de hockey, parce qu'on en voit évidemment plusieurs durant le film, ils sont très bien tournés. On voit la rondelle, on voit les bâtons. Je veux dire, moi j'ai la
misère... On n'a pas l'impression que c'est d'autres acteurs qui jouent au hockey, puis que...
Non, mais ils ont des doublures, là, ils l'ont dit, mais ça, on le voit bien, puis on comprend, on arrive à bien comprendre le jeu aussi. Surtout pour moi qui, bon, peut-être quelqu'un qui s'y connaît plus en hockey va peut-être être dérangé par la façon que ça se passe, mais j'ai trouvé ça vraiment bien filmé. On n'était pas du tout sur des plans statiques. On se croyait un peu à RDS, si on veut, là, pendant un match de hockey, mais beaucoup de plans aussi qui sont comme en plongée sur la glace. Donc ça, c'était super intéressant. Par contre, les points plus faibles de ce film, en fait, je vous dirais, c'est vraiment au niveau des dialogues. Des fois, dans les interactions entre les personnages, on dirait que ça coulait pas. Il manquait un petit côté. Puis c'est pas tant dans les acteurs, c'est vraiment au niveau du dialogue, du scénario que c'était comme...
Un film de hockey qui a un dialogue un peu poche. Je pense qu'on est dans le thème, en tout cas. De ce que... Des entrevues que j'ai écoutées à RDS.
En fait, c'est du réalisme, c'est ça que tu veux dire.
C'est ça, ouais, c'est ça, ils sont dans la bonne direction.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je trouvais ça peut-être un peu trop stagé, peut-être justement qu'ils parlent trop bien, je sais pas, j'ai pas envie de m'aventurer dans cette voie-là. Mais c'est ça, peut-être au niveau du scénario, du dialogue, un petit bémol. Idéalement, c'est ça, comme je disais, au niveau du scénario, de l'histoire, je crois qu'il aurait pu pousser plus loin le fait de l'accident d'auto, tout ça. C'est vraiment banal ce qui arrive. Là. Ils en font comme vraiment une montagne. Mais ça, on aurait pu pousser plus loin puis avoir plus un impact, je pense, sur la société, les jeunes, la consommation d'alcool, conduire en état d'ébriété, tout ça. On aurait vraiment pu, je pense, aller plus loin dans ce côté-là. Donc ça, je pense que ça y enlève un peu des points. Outre cela, c'est vraiment un film aller voir au temps des fêtes. Si vous aimez les drames sportifs, c'est bien fait. Moi, je vous donnerais un beau 7,5 sur 10.
Eh bien, merci, Mélina.
Merci.
Eh ben, ça avance bien, tout ça.
Bah, qu'est-ce qu'il y a?
J'ai attrapé chaud, là.
Magnus?
Si un lutin contracte une maladie, l'ensemble du banc de lutins sera également touché.
Non, c'est une catastrophe.
C'est ça qu'il faut.
Quoi ?
Eh ben, va chercher 92 000 tubes de vitamine C, tu fais un aller-retour, la pifouf.
Ou là, maintenant ?
Ben oui, là, maintenant, sans le temps enfin ! Il faut sortir les doigts de la hotte, là !
Moi, je suis votre avocat, je suis là pour vous aider. Vous comprenez, vous êtes en prison ?
Oui. Non, non, je sais ce qu'est une prison, merci, je fabrique des Monopoly. Donc, donnez-moi des dés, je fais un double et je sors.
Vous avez entendu Alain Chabat et la bande-annonce du film Noël et compagnie.
Ça a l'air très drôle.
Oui, tout à fait. Film, justement, écrit et réalisé par nul autre qu'Alain Chabat, donc l'un des maîtres actuels de la comédie française qui, en plus, interprète le premier rôle, celui de Santa Claus, le Père Noël. Audrey Tautou, que vous avez aussi entendu dans la bande-annonce, interprète la femme du Père Noël, donc la Mère Noël. C'est le gros stress de la fin d'année au Pôle Nord, quelques jours avant le réveillon, les lutins s'activent pour faire des cadeaux en tout genre à la fabrique du Père Noël. C'est là que se produit un événement tragique et hors du commun. Les 92 000 lutins tombent dans les pommes, malades, immobiles, tous en même temps. C'est là que Santa et sa femme, désespérés, fouillent dans un vieux grimoire et finissent par trouver une solution, la vitamine C. Et oui, comme quoi, Santa doit donc partir à la recherche de 92 000 comprimés de vitamine C. Et c'est là qu'il se retrouve à Paris, avec ses reines, son traîneau, totalement hors de sa zone de confort. Donc là, on tombe un peu dans un film à la Un prince à New York ou ce genre de film-là, où quelqu'un d'important se retrouve dépaysé en plein pays capitaliste. Le Père Noël se rend compte que les enfants qu'il a l'habitude de voir pendant qu'ils dorment, donc endormis la nuit de Noël, sont bruyants, hyperactifs, ils crient sans arrêt. Les antagonistes dans le film sont principalement des policiers qui l'arrêtent parce qu'évidemment, il a l'air d'être en boisson ou intoxiqué, parce qu'il joue son rôle de Père Noël. Évidemment, c'est le vrai Père Noël. Donc, c'est un film totalement absurde, bourré de jeux de mots, de subtilités. C'est du grand Alain Chabat et il faut, comme dans Astérix et Cléopâtre, être très attentif si on veut tout capter parce que c'est un humour très dense. Donc, un jeu de mots que j'ai adoré notamment, à un moment donné, le Père Noël utilise FaceTime pour parler à un de ses reines et on lui demande à quel reine il veut parler et Alain Chabat répond « à Ralph, Ralph le reine ». Trouvé extrêmement drôle. Donc, vous voyez un peu le genre d'humour. Je pense que Mélina va aimer ce genre d'humour-là. Et Louis,
vraiment,
moins.
Vraiment. C'est mon genre.
Oui. Je pense que les enfants vont quand même apprécier ce film-là, malgré que ce soit vraiment un film qui est conçu pour un public plus vieux. Vu le nombre de gags et d'événements, on sent que le niveau d'humour est plus axé pour des adultes. Malgré tout, la fin est touchante. J'ai presque versé une larme. Et là, par contre, où le bas de Noël blesse un peu plus, c'est que c'est bourré de clichés. Parfois un petit peu cheap, les policiers sont stupides, Santa est décidément trop con et égocentrique et il manque de culture générale de manière assez peu crédible. On est dans le très léger et le divertissement à part à la fin du film où soudainement le ton change et devient extrêmement glauque et ténébreux. On voit un Santa cynique et blasé qui baisse les bras très vite et qui fait penser un peu à Obélix sur la dépression. La seule bonne chose à propos de ce moment-là, c'est que c'est totalement inattendu et ça surprend solidement. Mais sinon, ça clash un peu. C'est pas un bon film au sens artistique du terme, mais c'est un excellent divertissement à mon avis. C'est un bon film à voir en famille, pour Noël. Et si, comme moi, vous aimez Alain Chabat et son humour, je vous recommande ce film définitivement. Je donne quand même un 7.5 à Noël et compagnie, parce que pour Noël, on s'en permet un peu plus.
Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu dirais pour les enfants, une recommandation d'âge?
Difficilement là. C'est sûr que c'est très français, donc le langage, tout ça, peut-être les gags vont être difficiles à comprendre pour des enfants qui n'ont pas l'habitude d'entendre l'accent français ou les expressions françaises. Fait que je dirais peut-être 8, 9, 10 okay. Minimum, là, parce que en bas de ça, je pense qu'ils comprendront pas grand-chose.
OK, puis ça sera pas divertissant.
Ça va être quand même, tu sais, c'est beau, là, les reines sont drôles, il y a des moments cocasses, le Père Noël est un peu idiot.
Est-ce que les termes sont appropriés pour des enfants, Alain Chabat, habituellement?
Ben encore là, c'est dans la subtilité. Dans la subtilité, caricatural. C'est un peu étrange comme expression, mais c'est comme ça que je dirais qu'Alain Chabat fait ses blagues. Donc, c'est tellement grossi, excessif, exagéré, mais si t'es pas attentif à ça, tu le pogneras pas. Okay. Donc, c'est ça. Là, je veux dire, Alain Chabat avait réalisé, vous vous souvenez, Astérix et Cléopâtre, le film, et...
Qui est un excellent film.
Qui est probablement le meilleur film d'Astérix, à mon avis.
Ouais.
Et il y a une subtilité que à peu près personne n'a remarqué. C'est que si vous connaissez bien Astérix, vous avez vu la bande dessinée, vous avez vu le dessin animé qui ont été faits par Goscinny et Uderzo, ben dans la bande dessinée, en fait, je ne me souviens plus dans lequel des deux, mais dans un des deux, c'est un tigre de Cléopâtre, et dans l'autre, c'est un lion. Et pour rire, Alain Chabat a mis un léopard. Donc, tu vois, si... mais c'est pas dit, oui. On le voit, tu vois, c'est okay. Juste, c'est des choses comme ça. Donc,
il y a plusieurs niveaux d'humour.
Oui, il y a plusieurs niveaux d'humour. Ce film-là a été un petit peu démoli par la critique.
Okay.
Mais quand même, je vous recommande, c'est un excellent divertissement, vous n'allez pas vous ennuyer là, en voyant ce film-là, là. Ça je vous garantis. Alors, c'était ça.
Super, merci Jim.
Merci Jim.
De retour à Cinébrunch, dans quelques minutes, Louis va nous dévoiler sa passion secrète pour l'acteur Mark Hamill. Mais avant toute chose, c'est le moment de notre quiz French Marie Gifle. Non, décidément. French Marie Gifle est un petit jeu dans lequel, pour un thème donné, chaque joueur doit, à tour de rôle, choisir entre trois éléments. Lequel il frenchera, on parle donc de plaisir immédiat. Lequel il mariera, on parle d'engagement à long terme et de confiance. Et finalement, lequel des trois il giflera, on parle donc de refus et de boycott. Et cette semaine, la princesse Léa, qu'on a vue dans les épisodes 4, 5, 6... La reine Padmé Amidala dans les épisodes 1, 2 et 3. Et Jyn Erso dans le film Rogue One. J'aurais pu prendre Rey de l'épisode 7, mais je trouvais que le personnage de Jyn Erso était plus intéressant. Qui a dit que Star Wars était un univers masculin? Louis French Marie Gifle.
Ok, je gifle Padmé Amidala.
Quoi?
Parce que politiquement, elle a sauté aux conclusions trop rapidement. Elle a été prise dans les pièges de l'empereur. Elle s'est laissée convaincre sur des informations partielles, puis c'est en partie à cause d'elle que, un, Jar Jar Binks s'est ramassé au Sénat, et que, deux, l'empereur Palpatine a réussi son coup. Spoiler alert pour un film de 99. Je French Jyn Erso parce qu'elle était vraiment cool. Puis que elle a vraiment la classe, mais je marie Léa parce que non seulement est-ce qu'elle est une princesse d'une planète détruite, elle réussit en plus à passer de sa condition d'esclave à conquéreuse de l'univers et générale dans une armée vraiment badass. Elle occupe tous les rôles, c'est la définition d'une femme libérée. Et Carrie Fisher, qui jouait Léa, est une actrice extraordinaire qu'on a malheureusement perdue.
Il y a peu de temps même. Eh bien, d'accord. Mélina, French Marie Gifle, Padmé, oui. Amidala, la princesse Léa et Jyn Erso.
C'est pas facile.
Ben, pendant ça, là, Jim, toi, French Marie Gifle, Léa, Padmé et Jyn Erso.
Alors, ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours eu un faible pour Natalie Portman. Par conséquent, je ne passerai pas par quatre chemins. Je marie Padmé, la reine Amidala. Aussi parce que non seulement sa beauté et son charme et son courage sont à son honneur, mais elle a quand même sauvé le peuple de Naboo. Et aussi parce que j'ai de la compassion pour elle qui est pognée avec quelqu'un comme Anakin dans son chemin, qui est probablement un des pires acteurs de tous les temps.
Non, l'acteur est extraordinaire, mais la direction de cet acteur-là était...
Ah, ben c'est peut-être ça, alors.
C'est
ça. Oui.
Mais si je peux me permettre, moi, je refuse d'appuyer quelqu'un qui utilise de la plèbe pour prendre sa place lors d'assassinat au travers l'usage d'un double. C'est ça.
Donc, ensuite, évidemment, j'ai choisi de frencher Jyn Erso, qui, interprétée avec brio par Felicity Jones, je la félicite d'ailleurs, et de toute beauté dans son rôle, je dirais un rôle presque parfait, tout au long du film Rogue One, qui était quand même ambitieux, parce qu'on parlait de faire un spin-off, donc de sortir de la heptalogie, de la... comment on dirait ça? Tu l'as dit l'autre jour, hein? Heptalogie.
Heptalogie.
Et ensuite, ben, j'offre une gifle monumentale à la princesse Léa pour plusieurs raisons. Premièrement, sa coupe de cheveux en forme de brioche à la cannelle, c'est non. Deuxièmement, pour son comportement incestueux d'embrasser son propre frère sur la bouche.
Elle ne savait pas!
Elle l'a fait quand même. Et finalement, parce que son caractère fort était vraiment cool dans les années 80-90, mais aujourd'hui, ça fait un petit peu trop over the top, comme tu dirais, Louis. Et je trouve qu'elle est un peu trop réactive. Donc, je la gifle. De toute façon, je ne pouvais pas faire autrement parce que Natalie Portman est dans mon cœur et Jyn Erso est dans mes bras. Donc, Mélina, French Marie Gifle.
Oui, French Marie Gifle. Donc, un pas facile, je trouve, pour ces trois femmes personnages de Star Wars. Donc, je vais commencer avec la personne que je vais marier. Je vais marier la princesse Léa. Oui, je vais la marier, principalement pour sa personnalité, son implication en politique, son fort caractère, que, bon, toi, tu trouves...
Que moi, je trouve qu'il est un peu trop, mais OK.
Oui, mais que moi, je trouve que c'est une belle figure féminine dans l'univers cinématographique. Je vais frencher Jyn Erso pour son petit côté solitaire, indépendante, c'est également une femme très forte. Et je vais gifler Padmé.
Yes!
Parce que
je suis vraiment déçue que tu prennes tout le contraire de moi. Oui.
Je trouve que c'est le personnage le moins fort, en fait, de ces trois-là. La petite romance secrète avec Anakin.
Mais c'est pourtant la seule qui a vraiment eu du pouvoir dans toute cette histoire-là.
Quoi?
Qui était quand même reine.
Jyn
Erso dans une situation où elle a zéro pouvoir réussit. La phrase iconique de la bande-annonce, c'est une rébellion, alors je me rebelle. Léa Organa qui part d'une reine, d'une planète qui se fait détruire sous ses yeux et qui garde son sang-froid face à Darth Vader qui vient d'assassiner sa famille, ses amis, son peuple, tout ce qu'elle connaissait ever, puis qui réussit à partir de cette position-là non seulement à s'échapper, mais en plus à mener la rébellion et à devenir général dans cette rébellion-là, alors que jusqu'à ce moment-là, tous les rôles d'importance sont occupés par des hommes.
C'est ça. Ça l'appuie, en fait, vraiment mon point. Donc, c'est ça, Padmé, je trouve que, bon, elle a un petit peu un caractère un peu moins fort, puis c'est ça. Je la giflerai un peu pour lui donner un peu de vigueur et de
tenue. Vos arguments se tiennent. Cela dit, la seule femme d'importance, est-ce que l'amiral Akbar est une femme ou un homme?
L'amiral Akbar est un homme. Ah. Dans l'univers étendu, c'est prouvé.
D'accord. Merci bien. Alors, c'était French Marie Gifle. C'est la saison de Star Wars. On en parlera la semaine prochaine, car on aura vu l'épisode 8 tant attendu. Et Louis, aujourd'hui, abreuvons-nous à ton savoir, puisque tu nous parles d'un acteur peut-être méconnu, outre dans Star Wars, mais qui a fait pas mal d'affaires quand même, Mark Hamill.
Oui, Mark Hamill, qui est né en 1951. Aujourd'hui, âgé de 66 ans, il est né à Oakland, en Californie. Il a commencé sa carrière à la télévision à faire des rôles de figurant, de petits rôles, entre autres pour les séries General Hospital, un soap opéra, ainsi que dans The Bill Cosby Show, The Partridge Family et un paquet d'autres qui valaient pas la peine d'être listés.
Il a fait plus de télé que de cinéma, je pense.
De début de sa carrière, à tout le moins, définitivement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est ramassé à faire Star Wars presque par hasard. Parce que son ami et le d'autre qui l'hébergeait sur son sofa à l'époque...
ça sonne vraiment...
Non, mais je pense que c'était beaucoup les années 60 à Los Angeles. Hein?
OK, mais ouais.
Robert Englund, qu'on connaît aujourd'hui surtout pour son rôle de... Freddy Krueger dans Cauchemar sur Elm Street.
C'est lui qui l'hébergeait dans son salon.
Puis à l'époque, England allait auditionner pour le rôle de Han Solo. En fait, les histoires diffèrent. Soit il allait auditionner pour Han Solo, soit il allait auditionner dans le même bâtiment pour un rôle sur Apocalypse Now. Mais bref, il a tombé sur les auditions pour Luke Skywalker puis il a fait « Ce type-là, c'est exactement Mark Hamill. Il faut que je lui en parle. Il doit le faire. » Et comme de fait,
il l'a eu
comme ça. Savais-tu qu'à la base, Luke Skywalker ne devait pas s'appeler Luke Skywalker? Connais-tu le nom original du personnage?
Non, c'était quoi?
Anakin Starkiller.
Oui, ça me dit quelque chose, ça parle.
Il était aussi supposé être un homme dans la soixantaine, une femme,
ça s'est promené.
Il y a eu un paquet de variations afin qu'on arrive sur le Luke Skywalker qu'on connaît aujourd'hui.
Penses-tu que Luke vient de Lucas?
Peut-être. J'ai pas fait les recherches, je dois admettre, à ce niveau-là. Je me suis surtout occupé, en fait, c'est qu'après le tournage du premier Star Wars, je sais pas si tu te rappelles, à partir du deuxième, Luke est un peu magané de la face. C'est qu'il a subi un accident de voiture, où il était distrait au volant. Et il a ramassé le terre-plein, il s'est fracturé le nez et la joue. Ce qui lui a causé énormément de stress et de complexe au niveau de son apparence. Il avait peur de ne plus être capable de faire du cinéma ou à tout le moins de ne plus faire ses rôles habituels. Il a fallu qu'il soit remplacé par un doubleur dans certaines scènes de l'Empire Contre-Attaque parce qu'il était à ce moment-là en récupération. Mais il a réussi à revenir. Là. Il a travaillé, puis on voit les cicatrices, puis il l'explique dans le film avec la scène de combat dans la Cité des Nuages.
Eh bien, là, je tu m'en apprends toute une.
Oui, c'est ça. Ben, c'était ça l'objectif, en fait.
Ben oui, j'imagine. C'est ça.
Bon, entre le 2 et le 3, il a aussi fait le spécial de Noël de Star Wars. Film que tout le monde aimerait oublier qu'il existe.
Et Harrison Ford a dit en entrevue « De quel film parlez-vous? »
Oui, ouais, il veut pas. Mais ce film-là, il était pas supposé se retrouver nulle part. Hein. Il a été enregistré sur une cassette par un employé d'une station de télé. Puis c'est la seule raison pourquoi on l'a encore aujourd'hui. Il y a aussi eu un radiodrame. Avec Star Wars où Mark Hamill faisait encore sa voix.
Mais il a fait beaucoup de doublage, j'imagine que c'est peut-être ça qui l'a inspiré.
Non, il avait déjà commencé avant ça. En fait, il a commencé des années 80 à faire ça, du doublage. Okay. Mais il y avait un ordre dans mon histoire.
Oui, pardon.
Fait que suite à la fin des Star Wars, du tournage des trois derniers films, ils ont comme sous-estimé l'importance de ce film-là dans la communauté geek. Fait que quand ils ont commencé à apparaître dans les premières conventions, dans les premiers trucs de comic book et autres, ouais. Ils ont un peu capoté tout le monde. Mark Hamill était le seul qui était le moindrement prêt parce que dans sa jeunesse, il lisait des bandes dessinées et c'était déjà quelqu'un qui s'y tenait, mais il n'avait jamais compris à quel point ça allait avoir une importance culturelle. Ce qui l'a amené à réaliser que son visage était maintenant vraiment beaucoup associé à Star Wars. Mm. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a voulu travailler à aller chercher des films en dehors de ce rôle-là. C'est comme ça qu'il s'est ramassé à tourner le rôle principal dans The Big Red One, Au-delà de la gloire, un drame historique sur la Deuxième Guerre mondiale tiré de la Première, et The Big Corvette. On l'a aussi vu après ça dans un paquet de projets cinématographiques. Il n'a pas fait beaucoup de films après ça. D'importance. Il n'a pas fait de rôle principal, il a pris des grands breaks au travers de ça. Mais s'il a surtout continué à faire sa fortune et sa réputation en étant un acteur vocal, il a plus de 300 rôles reconnus au niveau vocal. C'est un type qui n'arrête jamais de parler, apparemment. on l'a connu surtout à partir de 92 dans Batman The Animated Series comme étant la voix
du Joker. Puis c'est surprenant parce qu'il n'y a pourtant pas un rôle extravagant dans Star Wars, on pourrait dire. Quand même un rôle un peu timide, si on veut. Mais sa voix, j'ai regardé cette série-là, c'est impressionnant que ce gars-là soit capable de faire une voix aussi diabolique que celle-là dans la série, qui est d'ailleurs une série extraordinaire, Animated Series.
Ça n'a rien de très bon, mais il a continué à reprendre le rôle de Batman dans le rôle de Joker dans à peu près toutes les séries Batman d'importance.
Oui.
Le plus récemment, en 2016, dans The Killing Joke, le film de 90 minutes qui est sorti, qui est basé sur une des histoires célèbres de Batman. Il a fait les jeux vidéo aussi de la série The Arkham Series. Mm-hmm. Il dit que la seule personne, les deux seuls performance qu'il trouve aussi impressionnante que la sienne, ou à tout le moins les deux seules performances qu'il a aimées assez pour dire qu'il les reconnaissait, c'était la performance de Jack Nicholson dans les années 80 et de Heath Ledger en 2000.
Ouais, c'est vrai qu'il était bon Jack Nicholson aussi, non?
Mais il a aussi fait un paquet de personnages qui ont marqué mon enfance, entre autres, il a fait le chat méchant dans les Super Nanas, qui est un des méchants récurrents qui revenait souvent. Il était le Gobelin Vert dans Spider-Man The Animated Series, The Hobgoblin, il était aussi Ozai dans Avatar, le dernier Airbender. Je sais pas si tu as eu la chance de voir cette série-là. Non. Aussi une série d'animation qui vaut définitivement la peine. Je suis un geek, je suis un nerd. Il a aussi fait le méchant dans Spyro le Dragon 2. Il a aussi fait un des méchants dans Crash Bandicoot. Il a aussi fait plusieurs rôles dans la série Wing Commander. Wolverine dans un des jeux de combat de X-Men. Il a aussi fait plusieurs voix dans Icewind Dall The Enhanced Edition qui est sorti en 2014.
Qui est un de tes jeux favoris?
Icewindell? Oh, c'est vraiment une place spéciale dans mon cœur. Plus récemment, il a également fait connaître ses positions politiques très fortement en lisant les tweets de M. Trump avec la voix de The Joker, qui, peu importe vos positions politiques, a ça vraiment un charme de toute beauté.
Absolument.
Fait que ce serait pas mal ça sur Mark Hamill comme présentation.
Eh bien, on en a appris quand même pas mal. Merci Louis, c'était fort intéressant.
Un plaisir.
c'est pas mal la fin de l'année 2017 et Louis, t'as des bonnes résolutions pour 2018.
Oui, j'aimerais ça consommer plus de produits culturels. Je vais déjà voir un film par semaine pour l'émission, mais je me suis dit que je vois juste des longs-métrages, je vois pas de courts-métrages, je vois pas des trucs un peu extérieurs à ce qui se fait comme au cinéma. Fait que j'ai entendu parler de Kino Estrie, qui est un organisme culturel que je connaissais pas, mais qui m'a été chaudement recommandé. Fait que pour en savoir plus, j'ai profité de ma position comme co-animateur de l'émission pour inviter William Blanchet, coordonnateur de Kino Estrie, pour nous en parler. Salut William.
Salut.
Fait qu'est-ce que c'est que Kino Estrie?
Mais le mouvement Kino, c'est un mouvement cinématographique qui est parti à Montréal en 99. Puis l'objectif, c'est de faire un film par mois jusqu'à la fin du monde, le bug de l'an 2000. Puis après ça, ben, le bug n'est pas arrivé, il n'y a pas de fin du monde. Fait qu'ils ont continué à en faire. Puis ça a été introduit après ça au niveau international au courant d'un festival. Je pense que c'est le festival de nouveau cinéma. Puis il y a plein de cellules partout, cellules Kino. Sur la planète, là, que ce soit à Bordeaux, Trouville, Ontario aux États-Unis, Brésil et autres. Fait que là, nous autres, il y avait Kino Sherbrooke ici de 2003 à 2009. La cellule a comme un peu mouru.
Pris sur relax.
C'était teint.
Puis nous, il y a quelques années, avec des jeunes qui étaient super motivés, qui allaient faire des Kinos à Montréal, on a décidé de relancer le mouvement ici à Sherbrooke, mais sous le nom de Kino Estrie, considérant que Sherbrooke, oui, c'est une bonne ville, mais je pense que l'Estrie gagne à essayer de se parler puis travailler main dans la main au niveau culturel et cinéma, de développer une communauté plus solide de cinéastes. Donc, pas juste Sherbrooke, mais bien la communauté estrienne. Fait que dans le fond, Kino, ben, c'est de faire du film maintenant, avec le peu de stock, même si t'as pas le matériel professionnel, fais-le, essaie des choses, développe-toi, tourne, mais tourne tout de suite avec ce que t'as sous la main, tu sais.
Puis à chaque mois, vous faites un événement ici à Sherbrooke, c'est à quel endroit que vous voulez tenir?
On fait ça au Bistro Cinéma La Capsule, là, sur la rue Wellington Sud, le 38 rue Wellington Sud. C'est une fois par mois, les deuxièmes jeudis du mois, puis on alterne, parce que le concept de Kino, c'est de se lancer des défis, de réaliser des défis à chaque mois, mais puisque le bassin créateur est très occupé, là, on est des travailleurs créateurs et non des créateurs travailleurs. Ben les gens ont peut-être pas autant de temps de faire des films à chaque mois, tu sais. Donc on a des défis aux deux mois, puis on a des invités aux deux mois. Ce qui veut dire qu'en deuxième partie, on invite des gens. L'année passée, on avait Kino Rive-Sud qui est venu, Kino Québec, Kino Montréal. Fait qu'on puis des films de Wapikoni Mobile, si vous connaissez pas ça, allez sur le site, il y a plein de bons films là, d'autochtones là-dessus. Fait qu'on essaie de faire une alternance de ah, tiens, on éduque, on fait connaître des courts-métrages qui existent déjà, plus ben, venez créer, venez montrer ce que vous êtes capable de faire. Tu sais, les challenges avec des contraintes puis des thèmes un peu loufoques.
Fait que ça, c'est les Kino Shows, quand on fait les présentations, les invités, ouais. Tout ça. Puis, justement, il va y avoir un Kino Show cette semaine, donc jeudi. Et qu'est-ce qu'on a au programme cette semaine pour
là, on tombe sur nos invités, puis on fait un spécial documentaire. L'année passée, j'avais entendu entre les branches déjà que la course des régions pancanadiennes, c'était thématique documentaire. On est beaucoup là-dessus. Fait que je me disais, hey, ce serait le fun de relancer, de réenrichir, de... Bon, mais c'est le fun de voir du documentaire local.
Oui.
Fait qu'on fait... on a des invités qui viennent présenter des documentaires. Là. Geoffrey Corbeau, qui était le candidat à la course pancanadienne. On a... Jonathan Goyette, qui est un professeur d'université, qui a fait un documentaire sur une série de bâtiments qui étaient en attente de revitalisation ou en bourgeois avant. Là,
oui, OK.
Puis on a deux invités de Montréal. Un qui est natif d'ici, de Sherbrooke, qui est rendu producteur à Montréal, Gabriel Lemay, avec son film Screaming Montreal, qui est assez trash. Moi, il pourrait venir voir ça.
OK, OK.
Puis on a un de mes amis là, de Laval qui a fait un peu un documentaire style carnet de voyage. En Westphalia, fait que ça vaut la peine, mais spécial documentaire.
Puis, toi, est-ce que tu produis toi-même du cinéma ou t'es juste organisateur dans cette histoire-là?
Ah, j'en fais. Oui. J'en fais. Là, en ce moment, je suis en montage d'un long métrage. J'ai fait plusieurs courts-métrages les dernières fois. J'ai fait le défi L'amour au temps des zombies, thématique Saint-Valentin post-apocalyptique en février l'année passée. J'ai fait Bête fauve en septembre au Kino Cap de Saint-Camille. Dernièrement. En tout cas, j'ai pas acheté beaucoup de films. Là. La vie n'est pas un joli jardin au dernier Kino.
Mm-hmm.
Fait que, non, j'en produis.
Oh, mais c'est intéressant tout ça.
Ben, je pense que j'ai trouvé la résolution de ma résolution 2018. Fait que je vais définitivement être là jeudi.
Super. Puis sinon, il y en a encore en janvier jusqu'à juin, deuxième jeudi du mois.
Excellent.
Merci, William.
Ça fait plaisir.
Thank you.
venir en Blu-ray DVD cette semaine, Hôtel La Louisiane, un documentaire québécois sur l'histoire de l'hôtel parisien portant le même nom. Ça sort en Blu-ray DVD cette semaine. Sinon, le film Détroit, un film qui nous replonge dans l'une des plus grandes émeutes raciales des États-Unis suite à un raid policier. Sinon, deux autres films qui étaient au cinéma il y a peu de temps, Le Dernier Vice-Roi des Indes et Bienvenue à la Maison, Mélina, que tu pourras peut-être revoir.
Oh oui!
Si tu as envie. Et sinon, est-ce qu'il y a du nouveau sur Netflix?
Sur Netflix, il y a plusieurs films de Noël qui sortent, principalement des trucs originaux de Netflix. Mais il y a à noter le 1er décembre le film La Nuit au Musée, Le Secret du Tombeau, donc qui est le troisième de la série Une Nuit au Musée, qui est disponible depuis le 1er décembre sur Netflix. Donc ça met en scène Robin Williams, Owen Wilson et Ben Stiller.
Merci beaucoup.
Si je peux me permettre de parler de Netflix rapidement. Cette semaine est tombée la bande-annonce pour Altered Carbon, qui va être une série télé qui va sortir en 2018, février, qui, entre autres, met en vedette Joel Kinnaman, James Rufour, Martha Higareda, qui est basée sur une série de livres que j'ai absolument adoré, qui est par Richard Morgan, du même nom, Altered Carbon, qui est absolument extraordinaire, qui était un sci-fi violent, weird, dystopique, où les humains peuvent transférer leur conscience d'une personne à l'autre. La bande-annonce est 18 ans plus, violence, et elle vaut définitivement la peine si vous n'êtes pas facilement dérangé. 2 février.
Donc, si je comprends bien, tu t'es réconcilié avec le concept de série télé?
Je fais des exceptions pour les séries de livres que j'ai vraiment aimé.
Ah bon, très bien. Sinon, Louis, de ton côté, qu'est-ce qui se passe au cinéma dans les prochaines semaines?
La semaine prochaine, il y a juste 3 sorties. D'importance au Québec, il y a Ferdinand, qui est basé sur un livre pour enfants qui date de 1936.
Ah.
On suit l'histoire de Ferdinand le taureau, qui préfère sentir les fleurs et être généreux plutôt que de se battre et de participer à la corrida. victime de son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d'origine. Bien déterminé à retrouver ses familles et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers l'Espagne. C'est John Cena qui fait la voix du taureau. Moi, juste pour ça,
tu vas aller voir.
Oui.
Kate McKinnon fait une vieille chèvre et David Tennant fait un taureau écossais. Je veux dire, juste pour ces 3 personnes-là, c'est Carlos Saldana qui dirige, c'est lui qui avait aussi co-dirigé Rio et l'Ange de glace.
Des bons films.
Il y a aussi Le sens de la fête, que je pense que Jim va aller voir d'ailleurs.
De toute évidence.
Qui est un film qui se déroule lors d'un grand mariage dans un sublime château français. Comme d'habitude, Max a tout coordonné. Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos.
La bande-annonce a l'air extrêmement
la
drôle.
La bande-annonce m'a fait très rire, même si normalement c'est pas le genre de film que j'aime. C'est dirigé par Eric Toledano et Olivier Nakache, sa mère vedette Jean-Pierre Bacri. Toute l'idée du film, c'était en fait pour que les deux directeurs puissent mettre en vedette Jean-Pierre Bacri dans un film.
Ah bon, c'est pour ça.
Ça part vraiment de ça. J'ai gardé le meilleur pour la fin, mais c'est aussi le film sur lequel je vais moins parler, c'est-à-dire que c'est Star Wars, Le Dernier Jedi. Faut que je vous lise l'histoire qui est sortie dans les communiqués de presse parce qu'elle m'a fait trop rire, qui est « Les héros du réveil de la Force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et en train de choquantes révélations sur le passé. »
Ça veut absolument rien dire.
Vraiment. Honnêtement, je suis pas convaincu si c'est Star Trek, Star Wars ou comme le dernier Fast and Furious. C'est dirigé par Rian Johnson, que j'ai surtout découvert avec Looper. Joseph Gordon-Levitt et Bruce Willis étaient excellents dans ce film-là. J'ai bien hâte. Je pense que je parle pour tout le monde dans ce film.
Je pense qu'on a tous très hâte. Moi, personnellement, j'ai aimé le Force Awakened.
Moi aussi, d'ailleurs.
J'ai aimé Rogue One, donc je m'attends à ce que ça soit à la hauteur. Et je pense que c'est aussi peut-être la conclusion de certains personnages anciens. Merci Louis, merci Mélina, c'est déjà la fin de cette émission de Cinébrunch. Je vous rappelle qu'on avait un tirage la semaine dernière. On remercie la Maison du cinéma pour nous avoir offert ces 5 paires de billets pour le film Au revoir là-haut. Félicitations à nos gagnants qui ont publié sur notre page Facebook. On se retrouve samedi prochain 11h où on va parler de Star Wars épisode 8. D'ici là, rendez-vous sur notre site web cinébrunch.com ou en balado-diffusion sur iTunes, Google Play ou RZO. À la semaine prochaine et bye bye tout le monde!
Bye bye!
Bonne semaine!